bonne logique, je crois, entamer l'étude du verset Vav, chapitre 4, verset Vav. Vaïkach Avraham et Atzeharola. Avraham prit les bois de l'Holocauste. Vayasem al Yitzhak Beno et les posa sur Yitzhak son fils. Vaïkach Beyado et Taesh et Amarhelet. Il prit en main le feu et le couteau. Vayelechou Shenehem Yardav. Ils marchèrent les deux ensemble. Bon, c'est de l'Holocauste. Oui. Non, pas le feu. Les bois de l'Holocauste. Atzer. Et Taesh, le feu. Le feu, oui, c'est ça. Le Tamarhelet et le couteau. Bon, ce verset, en fait, fait poser une masse énorme de questions. Pourquoi est-ce qu'Abraham met le bois sur les épaules d'Yitzhak? Alors bon, c'est un... D'abord parce qu'il faut bien que quelqu'un le porte. Que quelqu'un porte... C'est-à-dire, on veut pas... Il veut prendre à la fois le bois, le feu et le couteau, ça ne marchera pas. Donc on fait un partage. Yitzhak prend le bois et Abraham prend le couteau et le feu. C'est quand même bizarre cette histoire. Il y avait un usage dans l'Antiquité, quand quelqu'un était condamné à mort, il devait porter l'objet qui allait le mettre à mort. Par exemple, chez les chrétiens, non, pardon, chez les romains, il y avait un supplice qu'on appelait la crucifixion. Quand quelqu'un portait et allait à se faire crucifier, mais il devait porter sa croix. Donc, ça c'est parti du supplice. Et le Midrash nous dit à propos du bois que Yitzhak doit porter, que Adam anosé et tseluvo, comme un homme qui porte sa croix. C'est quand même bizarre, quand même, cette image, n'est-ce pas? Vous savez que pour le christianisme, la Akeda, le sacrifice d'Isaac, c'est une crucifixion manquée. C'est-à-dire, le juif n'a pas été tué finalement. Donc c'est un ratage. Mais enfin, ça a été réparé plus tard. Le juif a enfin été crucifié. Et c'est ça qui fait l'expiation des péchés du monde entier. Tandis que justement, ce que le Midrash veut dire, ce que la Torah ici veut nous dire, c'est que justement, la différence, c'est que finalement, c'est la vie qui l'emporte. D'accord ? Mais on pousse l'image jusque-là. Bon. Maintenant, autre point, Vaïkar Viado et Taesh, il prit dans ses mains le feu. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de prendre le feu? Il n'y a pas le feu. Quand on va arriver en haut, qu'il fasse le feu. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de prendre le feu? Eh bien, parce que sachez qu'à l'époque, il n'y avait pas d'allumettes. Que ce n'était pas toujours évident de faire le feu. Et que pas tout le monde savait faire le feu. Ce qu'on faisait, on entretenait un feu perpétuel dans chaque foyer. Et de ce feu, on prenait la flamme. Donc, Abraham avait emporté avec lui le feu. C'est normal. Maintenant, autre mot pas clair, c'est le mot ma'achelet. Ça veut dire quoi, ma'achelet? On avait dit le couteau. Comment est-ce qu'on dit un couteau en hébreu? Sakin. Pourquoi il n'y a pas écrit sakin? Pourquoi il n'y a pas écrit ma'achelet?
Est-ce que sakin, c'est aussi le couteau de la shrita?
Tous les couteaux. Ça parle de... Non, il y a aussi un autre mot pour les couteaux de la shrita, ça s'appelle halafim. Mais c'est pas ce qu'il y a écrit. Comment?
Hein? Peut-être que c'est un mot pas pour dire couteau comme on l'entend, mais le sabre, je ne sais pas.
Un grand couteau. Pourquoi Maharet? Et pourquoi il s'appellerait Maharet? D'abord, d'où ça vient le... C'est quoi la racine de Maharet? Ochel, achal, c'est pas manger. Maharil, c'est ce qu'il fait manger. Alors on dit, d'habitude, le couteau, c'est ce qui nous permet de manger la bête. On n'a pas le droit de manger la bête tant qu'elle n'est pas abattue, donc le couteau nous permet de la manger, donc elle nous donne à manger. Mais dans ce cas précis, le couteau n'était pas venu pour autoriser la consommation de Yitzhak. Alors c'est quoi? D'après les Chachamim, c'est ce couteau qui nous fait manger jusqu'à ce jour. grâce au mérite de la Akeda, nous en tirons des bénéfices jusqu'à ce jour. Donc nous sommes très reconnaissants au couteau d'Abraham de nous donner tant de mérites jusqu'à ce jour. Bon, tout cela pour l'instant est assez simple. Ce qui m'embête le plus, c'est la fin du verset. Vayelechu shenehem yardav, ils marchèrent les deux ensemble. Si deux personnes vont sur la même route, ça s'appelle qu'ils marchent ensemble. Donc ici, une banalité navrante. Quoi ?
Ah,
donc il va d'aussi bonne volonté que son père. Il va de bonne volonté pour quoi faire ?
Se faire exécuter.
Il ne sait pas encore. Il n'est pas au courant. Donc, il y a autre chose. Il y a eu un rapprochement donc, entre Abraham et Yitzhak qui a perdu la discussion qui vient juste après. Vayomer Yitzhak et Abraham à vivre. Yitzhak dit à Abraham son père. Vayomer à vivre. Et il dit, mon père. Vayomer, ineni, béni. Et il répondit, me voici, mon fils. Comme on dit, plus lourd que ça, tu meurs. Et on rit. Yitzhak dit à Abraham son père, comme si on ne savait pas qu'Abraham était le père d'Yitzhak. On l'apprend maintenant. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Papa, est-ce qu'on a besoin de savoir? C'est un élément absolument inutile dans la discussion, dans le récit en tout cas. Et après il dit, me voici, mon fils. Dites-moi, c'est du roman à l'eau de rose. Vayomer, il dit, vous voyez le dramatique là. Inerech vaetim, voici le feu et le bois. Vaya, c'est Léola, où est l'agneau de l'Holocauste? Et qu'à ce moment-là, il ne le sait pas encore. En fait, il faut comprendre tout à fait différemment. Sinon, le verset est insipide. Reprenons le début du verset. Vayomer Yitzhak el Abraham, et Yitzhak dit à Abraham, aviv, qu'il était son père. C'est-à-dire qu'Abraham, pour la première fois dans sa vie, Yitzhak a jugé nécessaire de dire à son père qu'il était son père. C'est-à-dire qu'il se reconnaît comme étant la filiation, aussi bien naturelle que spirituelle, d'Abraham. Alors que ce n'est pas du tout évident, puisqu'Abraham est un tzaddik de ce qu'on appelle la midat ha-chesed, de la générosité, tandis que Yitzhak vient au nom de la rigueur, midat ha-din, et donc ils n'étaient pas faits pour s'entendre. C'est-à-dire qu'il y a une rivalité entre le din et le chesed, et ici, le tenant du din se reconnaît comme étant un prolongement du chesed. Et comment il fait pour lui dire ça? Vayomer, en lui disant, Avi, mon père. C'est-à-dire, c'est un courage énorme de la part d'Yitzhak d'avoir accepté qu'Abraham soit son père. Vayomer, réaction d'Abraham, très intéressante, Ineni, me voici, béni, mon fils. C'est également la première fois dans la vie d'Abraham qu'il reconnaît qu'Yitzhak est son fils. Une fois ceci acquis, la possibilité que les deux midot, les deux valeurs, se réunifient en une seule valeur, est possible, n'est-ce pas? Donc, à partir de ce moment-là, le projet de la Akeda est réalisé. Il n'est plus nécessaire de faire quoi que ce soit, ils peuvent redescendre. Ils pourraient redescendre. Vayomer Abraham, et alors Abraham répondit, Elohim ir Eloa Seleola, béni. C'est Elohim qui verra pour lui l'agneau du sacrifice, mon fils. Donc il lui fait comprendre que c'est de lui dont il s'agit. Vayelechu Shenehem, Yardav, et ils marchèrent les deux ensemble. Et là, donc c'est clair, ils sont ensemble. Ça veut dire qu'ils sont ensemble, c'est vrai qu'ils sont disposés à la Akeda, tous les deux, mais ils sont également disposés à faire l'unité des valeurs qu'il représente. Abraham accepte Yitzhak comme son fils, et Yitzhak accepte Abraham comme son père. Donc tout le reste, après, est inutile. Vayavo et Lamakom, Asher Amarlo à Elohim, ils arrivèrent au lieu que lui avait indiqué Dieu. Vayiben Sham Abraham et Amizbeach, Abraham construisit là-bas l'autel. Vayaroch et Aetzim, il disposa les bois. Vayakod et Yitzhak Beno, il ligota Yitzhak, son fils. Ça veut dire que dans l'interaction entre le chesed et le din, c'est le chesed qui l'emporte. Vayasem oto à la misbéar, il le mit sur l'autel, mima la etzim au-dessus du bois.
Mais pourquoi il continue alors la Keda?
Ah, parce qu'ils n'ont pas étudié mon cours. Tout simplement. Mais on va voir ici une épreuve intéressante.
Préciser.
Comment?
Mais aussi pourquoi préciser au-dessus du bois?
Ah ben on va comprendre par la suite. Pour l'instant on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'il le met sur le bois? Surtout que ce n'est pas comme ça qu'on fait un sacrifice. Quand on fait un sacrifice, on abat la bête et après, une fois qu'elle est abattue, on la met sur l'autel. Là, l'abattage va se faire sur l'autel, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? C'est le contraire à la halakha. Vaishlach Avraham et Yado, Avraham envoya sa main. Vaikach et Amahelet, et il prit le couteau, l'ishrot et beno, pour égorger son fils. J'ai pas très bien compris, ça veut dire quoi? Vaishlach Avraham et Yado, Avraham envoya sa main. On peut dire qu'il a. Et Avraham prit le couteau. C'est quoi? Il a envoyé sa main et il prit le couteau. Ça veut dire que sa main ne le voulait pas. C'est-à-dire qu'Abraham le voulait, mais la main refusait. Pourquoi est-ce que la main refusait? Tout simplement parce que les organes d'Abraham ne faisaient que la volonté de Dieu. Et dans ce cas, comme ce n'était pas vraiment la volonté de Dieu, donc Abraham a dû imposer à sa main sa volonté. D'accord? Regarde, Beno. Donc il veut tuer qui? Son fils, Beno. Vous vous rappelez qu'il y avait un problème au départ? La dualité entre le mot Nahar et le mot Ben. Le jeune homme ou le fils. À propos d'Ishmaël, d'Itsraq, tout ça, il y a tout un débat. Vaikra elav malach Hashem min hashamayim. Et alors, un ange de Dieu l'appelle du ciel. Vayomer, il lui dit. Qu'est-ce qu'il lui dit?
Abraham, Abraham.
Très bien. Il lui dit Abraham, Abraham. C'est bizarre. Comment il s'appelait? Notre ancêtre. Abraham. Alors qu'est-ce qu'il appelle Abraham, Abraham? Il devrait l'appeler tout simplement Abraham. Ça veut donc dire que notre patriarche a eu trois noms dans sa vie. Au début, il s'appelait Abraham. Après, il est devenu Abraham. Et maintenant, il s'appelle Abraham, Abraham. Il a changé de nom. C'est quoi Abraham, Abraham? C'est un drôle de nom, ça, quand même. Avoir un double nom. Parce que ça veut dire qu'il y a donc une correspondance entre les deux Abraham, entre l'Abraham d'en bas et l'Abraham d'en haut. L'Abraham d'en bas, c'est ce qu'on appelle son nefesh, sa personne. Et puis il y a également sa neshama, son âme. Son âme, c'est l'Abraham absolu. Quand Abraham en arrive à la Akeda, il y a une adéquation entre l'Abraham d'en bas et l'Abraham d'en haut. Donc Abraham, maintenant, se fait appeler également du nom de sa neshama. Donc il a un double nom, Abraham, Abraham. Nous avons plusieurs cas de ce genre dans la Bible. Il est dit à propos de Yaakov, « Vayavor Elohim et l'Israël bemarot alayla » Elohim intervint auprès d'Israël dans les visions de la nuit. « Vayomer » et lui dit « Yaakov, Yaakov » ce qui veut dire « Yaakov, Yaakov ». C'est-à-dire que Yaakov avait donc un nom, Yaakov, Yaakov. On voit également chez le prophète Shmuel, Samuel en français. Le prophète Shmuel a une révélation dans le sanctuaire de Shiloh. C'est très bien le café, pas très bien, vous pouvez faire un café, c'est très bien. Le prophète Shmuel a une révélation et dans laquelle il entend Vayomer Shmuel Shmuel, ce qui veut dire il lui dit Shmuel Shmuel. Donc vous avez ici Abraham, Yaakov et Shmuel qui ont un double nom. Remarquez une petite chose, si vous regardez dans le texte, entre le mot Abraham et le mot Abraham, qu'est-ce que vous avez? Un petit trait vertical. Ce trait vertical est appelé par nos frères ashkénazes un pesik et par nos frères séfarades un pasek, et il signifie une séparation. Ça veut dire que bien qu'il y a correspondance entre, parallélisme pourrait-on dire, entre l'Abraham d'en bas et l'Abraham d'en haut, il y a quand même une petite différence. Et cette petite différence s'exprime par le pasek ou le pesik que vous avez ici entre Abraham et Abraham. De même, entre Yaakov et Yaakov, et entre Shemuel et Shemuel. Et si vous regardez dans le texte biblique, vous verrez qu'il y a un petit trait entre les deux. Entre Abraham et Abraham, Yaakov, Yaakov, et Shemuel, Shemuel. Nous avons un quatrième cas dans lequel ce trait n'apparaît pas. C'est lors de la vision du buisson ardent, quand Moshe reçoit la révélation, il dit là-bas, « Vayomer, Moshe, Moshe ». Il lui dit, « Moshe, Moshe, il n'y a pas cette séparation entre les deux ». C'est-à-dire que chez Moshe, c'était un niveau supérieur, il vivait pleinement sa Neshama. D'accord ? Donc nous avons pour l'instant Abraham, Yaakov, Moshe, Shmuel. Qui manque ?
Yitzhak.
Yitzhak. Nous n'avons pas de verset qui nous dit Yitzhak, Yitzhak. Bizarre quand même. Si Abraham et Yaakov, Moshe et Shmuel ont un double nom, pourquoi pas Yitzhak ?
Parce qu'il est que dans la vie.
Et alors ?
Il est que dans une des dimensions du domaine.
Laquelle ? Celle d'en haut ou celle d'en bas ? Il n'est qu'en haut. Il n'y a pas d'Yitzhak en bas. C'est-à-dire c'est un être tellement absolu qu'il n'est pas capable d'avoir une présence réelle sur Terre. C'est pour ça d'ailleurs que l'image que nous avons, le portrait que nous avons d'Yitzhak, est très faible dans la Torah. On parle beaucoup d'Abraham et Yaakov, Yitzhak est en haut. Donc vous avez, il n'y a pas d'Yitzhak, Yitzhak, parce qu'il n'y a que le Yitzhak d'en haut. Et avant la Hakeda, il n'y avait que le Yitzhak d'en bas. C'est-à-dire, la Hakeda l'a fait passer d'en bas en haut. Et il y a encore trois autres cas. Celles qui sont Noah, Shem et Terah. Avec une petite différence. Comment ? Non, mais comment c'est écrit ? C'est différent. Par exemple, pour Abraham, il l'appela Abraham, Abraham. Pour Noah, il écrit comme ça. Elé Toledov Noah, voici les engendrements de Noah. Noah ish tzadik. Noah était un homme juste. Donc il y a deux fois Noah. Mais le premier Noah, c'est la fin de la première phrase, et le deuxième Noah, c'est le début de la phrase d'après. De même, Elé Toledov Shem, Shem ben Meachana. Voici les engendrements de Shem, lorsque Shem eut 100 ans. De même, Vélé Toledov Terah, Terah au lit d'Abraham. Voici les engendrements de Terah, Terah a engendré Abraham. Ça veut dire que nous avons également des doublets, mais ces doublets sont fin de phrase et début de phrase. Ça veut dire que pour Noah, Shem et Terah, c'était des ébauches de ce qu'allait devenir Abraham, Yaakov, Moshe et Shmuel. Donc combien de fois vous avez des doubles noms dans la Torah, dans le Tanakh ?
Qui se suivent et séparés ?
Oui, sept.
Ah.
Voilà. Noah, Shem, Terah, Abraham, Yaakov, Moshe, Shmuel. Donc ici, nous revenons à notre texte, la Hakeda, au verset Yudalef, Vaikra et la Malach Hashem Minashamaim, un ange d'Hashem l'appela du ciel. Comment était appelé Dieu jusqu'à présent dans tout le texte ? Elohim, n'est-ce pas ? Soit Elohim, soit Ha-Elohim. Même d'ailleurs, quand Abraham parle avec son fils, il dit c'est Elohim qui verra l'agneau. Donc, Abraham agit en fonction des valeurs de Elohim qui sont midat hadin, mais c'est la miséricorde qui intervient, Malach Hashem, un ange d'Hashem. Vous voyez, il y a un renversement. Ça ressemble un peu à ce qui se passe à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, vous avez la midat hadin, et puis lorsqu'on sonne du shofar, qui vient rappeler le bélier d'Yitzhak, alors tout se transforme en Hashem. Allah Elohim Bitroa, c'est Elohim qui monte dans le son de la corne, Hashem Yudke Vavke, le col chauffard dans la voix du chauffard. C'est un truc de tous les jours, ça. Hein? Tous les jours, hein? C'est extraordinaire. Vayomer, et il lui dit. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Ah, pardon, Vayomer, Avram, Avram, Vayomer, Hineni. Il répondit, me voici. Vayomer, il lui dit. Al tishlach yadecha el ha nar. N'envoie pas ta main contre le jeune homme. Et là, je ne comprends plus rien. Pourquoi est-il écrit qu'il ne faut pas envoyer la main contre le jeune homme ? Il faudrait dire contre le fils, ton fils. Puisque, justement, ce qui va justifier de ne pas l'abattre, c'est qu'il est le fils. Donc il devrait dire, n'envoie pas ta main contre ton fils. Pourquoi il dit contre le jeune homme?
Peut-être que la Akeda, ça fait rompre justement la co... Enfin,
exactement. Ça veut dire, si tu l'égorges, c'est plus ton fils. Ce n'est que le jeune homme. Et ça veut dire. N'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'il veut lui dire. C'est, comme c'est ton fils, tu ne peux pas le faire. Ve'al ta'as lo me'uma. Et ne lui fais rien. Je n'ai pas compris. Si, lui dit, il ne faut pas la battre. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de rajouter et ne lui fait rien? Hein? S'il lui dit, il ne faut pas la battre. N'envoie pas ta main contre eux, le jeune homme. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de rajouter et ne lui fait rien? Vous ne savez pas? Le Midrash est très clair. Il dit, c'est qu'il a voulu quand même faire quelque chose. Il dit, bon d'accord, je l'égorge pas, mais je peux faire quelque chose, une petite entaille. C'est quoi cette histoire? C'est ridicule. Non, l'égorger, je ne peux pas, mais quand même, un petit... C'est quoi cette histoire? Ça veut dire qu'il y a eu une tentation d'Abraham à ce moment-là, d'en finir avec la Midat Hadin. Et c'est pour ça que le Midrash reproche à Abraham d'avoir voulu quand même faire quelque chose. Ki ata yadati, car présentement je sais, ki yirei Elohim ata, que tu crains Elohim. Comme tu crains Elohim, tu as acquis la Midat Hadin, c'est pas la peine de continuer. Velo hasarta et bincha et yachitra mibeni, et tu n'as pas privé ton fils, ton unique, de moi. Il n'y a pas écrit que tu aimes. Vaïssa Avraham, parce que ça c'était Ishmael, c'est lui que tu aimes. Vaïssa Avraham et Aenav, Avraham leva les yeux. S'il lève les yeux, ça veut dire qu'il regarde en haut ou en bas?
En haut.
En haut. Et qu'est-ce qu'il voit en haut? Vayar vineail. Et voici un bélier. Alors, sur le terrain, ça veut dire que le terrain était en pente et que l'autel n'était pas sur le sommet, puisqu'il y avait un endroit plus haut. N'est-ce pas? C'est ça. Donc, si je représente la manière dont c'est ce fait. Vous avez donc la montagne, là vous avez l'autel où Abraham se trouve, et il y a un bélier qui est plus haut, n'est-ce pas? Avec des cornes. Voilà, c'est... Bon. Donc il monte vers le bélier. Aha! Après, Ne'echaz bassevar bekarnav. Qui se tient dans le buisson par ses cornes. Vayelech Abraham, vayikar et ha'il. Abraham alla prendre le bélier. Vayale ulehola tachat beno, et il le sacrifia en holocauste à la place de son fils. Ça veut dire qu'il y a ici un double mouvement. Abraham va de l'autel au buisson et du buisson à l'autel. Maintenant, si on reprend la tradition, c'est comme quoi l'autel sur lequel tout ça s'est fait, c'est l'autel qu'il y a dans le Beth Amikdash. L'autel dans le Beth Amikdash était dans quel endroit? Le plus haut ou pas le plus haut?
Oui, le plus haut.
Le plus haut?
Non,
c'est
le plus bas.
Non? Non. L'endroit le plus haut dans le Beth Amikdash, c'est où? Dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Donc c'est pas dans l'endroit du Mizbéa. Il y a une distance de quelque chose comme 40 mètres qu'il faut passer depuis l'autel jusqu'au Kodesh HaKodashim. Pour y arriver au Kodesh HaKodashim, il faut donc monter et après on redescend. C'est ce que faisait le Kohen Gadol, le grand prêtre, lors de Kippour. Il allait de l'autel jusqu'au Kodesh HaKodashim et après il revenait. Donc il faisait la route d'Abraham.
Mais elle est géographique, cette...
Elle est topographique, bien sûr. On ne dit pas géographique pour 40 mètres. On dit topographique pour 40 mètres. Donc, sur le terrain, il y a quelque chose qu'il faut monter, il faut redescendre. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim, en fait? Il y a la Torah. La Torah est appelée l'arbre de vie. Donc, il est probable que le bélier était attaché à une projection de l'arbre de vie. Il est dans un arbre. N'est-ce pas? c'est dans cet endroit-là, donc Avraham. Donc il est en fait l'initiateur de la trajectoire du Kohen Gadol à Kippour. Vous comprenez pourquoi il y a un rapport entre l'expiation et tout ce qui se passe après. Maintenant, comment est-ce qu'on dit à la place de son fils? En hébreu, ça se dit Tahat Beno, n'est-ce pas? Mais le mot Tahat en hébreu veut dire également en dessous. Alors, les Chachamim ont dit que ce qu'a fait Avraham, il a pris l'autel, il avait l'autel, sur l'autel, le bois, sur le bois, le bélier, et sur le bélier, il y avait Yitzhak, et Avraham a abattu le bélier qui était sous Yitzhak. Tahat Beno. Bizarre cette manière de faire les choses. Si déjà il décide de ne pas abattre Yitzhak, qu'il le laisse de côté et qu'il s'occupe du bélier maintenant. Ah. En fait, tout cela a pour arrière-plan un problème. Pourquoi la Torah nous interdit-elle de faire des sacrifices humains? C'est pas juste. Il n'y a rien de plus chouette que de revenir à sa source, non? Comme il est dit dans le Lotus Bleu, je vais vous montrer la voie. C'est là-haut de ceux qui l'a dit. Mais effectivement, si on réfléchit bien, s'il y a une tendance de la création à revenir à son origine, donc cette tendance doit englober tous les êtres. Donc aussi bien les minéraux que les végétaux, que les animaux, et à plus forte raison, l'homme. On peut dire que Yitzhak a été extrêmement vexé probablement quand on lui a dit que ce n'était pas lui qui était sacrifié. Ça l'a certainement traumatisé. Alors que comment? Je voulais être sacrifié, on ne m'a pas sacrifié. La question est réelle, elle est profonde. D'ailleurs, vous avez dans le livre de Vayikra, qui est le livre des sacrifices, ça commence comment? Comment commence le livre de Vayikra? Par le mot Vayikra. Vayikra el Moshe, il appela Moshe. Vaidaber Hashem Elav Noël Moed, les morts. Et Dieu lui parla depuis la tente d'assignation en ces termes. Qu'est-ce qu'il lui dit? Puisque vous avez le texte ouvert là, donc vous êtes coincé, vous êtes obligé de dire. Ouais.
Parle aux enfants d'Israël.
Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Non, vous avez sauté un mot.
Adam
qui akriv mikem korban lachem. Lorsqu'un homme voudra présenter d'entre vous un sacrifice à Dieu. C'est quoi d'entre vous? Ben, un homme. D'accord? C'est-à-dire que ce que dit la Torah, c'est que l'intention primordiale du sacrifieur, du sacrificateur, c'est de présenter sur l'autel un homme. Quel homme? Lui-même. Adam qui akriv, lorsqu'un homme veut sacrifier, mikem. D'entre vous, Corban de la chaîne, un sacrifice pour Dieu. D'accord? Comment continue le verset? Si déjà vous avez. Mina Behema, Mina Bakar ou Mina Tson, Takrivou et Corban Chem. C'est des animaux, ovins et bovins, que vous présenterez votre sacrifice. Vous avez donc une répétition du principe de la Akedat Yitzhak. Vous voulez sacrifier un homme, c'est très bien. Mais vous ne pourrez pas, ce sera une bête. Bizarre, c'est pas juste. Pourquoi est-ce que la bête a ce mérite d'être sacrifiée et pas un homme? C'est de la discrimination.
C'est pas un mérite complet.
Comment?
C'est pas un mérite complet, parce qu'en sacrifiant quelqu'un, on l'empêche de réaliser complètement.
Ouais, mais quand je sacrifie une bête, ben je l'empêche de continuer à brouter.
Non, parce qu'elle est limitée, elle a déjà réalisé ce qu'elle avait réalisé.
Elle avait réalisé. Et tandis que l'homme. Alors on pourrait peut-être pour quand on arrive à l'anniversaire de 120 ans, dire voilà, ben tu as un mérite, maintenant tu vas être sacrifié. Hein? Comme chez les Esquimaux. D'accord?
Mais marqué, tu ne tueras point.
Oui, c'est vrai, mais ça ne s'appelle pas vraiment tuer, c'est sacrifier, c'est pas vraiment la même chose. Il y a des cas où on tue quand même. Par exemple, je ne sais pas, la Torah dit que tuer une bête aussi, c'est un assassinat. Dans le livre de Vayikra, au chapitre Yudzaïn, c'est écrit en toutes lettres que quelqu'un qui abat une bête pour la manger, c'est un meurtre.
Oui, mais c'est quand même autorisé.
c'est quand même autorisé plus tard dans le livre de Devarim, dans le livre de Vaïkra, c'est interdit. Ça veut dire que la Torah considère que faire, que qu'abattre une bête, et là-bas la Torah dit pas en tant que sacrifice, c'est un assassinat. Ce qui veut dire que en tant que sacrifice, au contraire, c'est quelque chose de louable. N'est-ce pas ? Donc tu ne tueras point n'est pas tout à fait convaincant. Ou en tout cas, même si ça serait convaincant, pourquoi tu ne tueras pas si c'est pour faire un sacrifice ? Vous comprenez ma question ? Je suis en train, qu'à Dieu ne plaise, de justifier les sacrifices humains. Je vous demande de ne pas arriver à des conclusions hâtives et de ne pas vous sacrifier. D'accord ? Simplement, j'essaie de comprendre la logique qui est derrière tout ça. La réponse est très simple. De quoi est faite une bête ? Une bête est faite... C'est un animal. Une bête, c'est un animal. Un animal ou une bête, c'est fait de vitalité biologique. Qu'est-ce qu'une bête peut donner ? Ben, elle peut donner que ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle a ? De la vitalité biologique. Comment est-ce qu'on fait pour donner la vitalité biologique ? Ben, on abat la bête et on la brûle. C'est, on a donné ce qu'elle avait. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'un homme a ? Un homme est fait de deux choses. Un homme est fait d'une vache et d'une conscience. D'accord ? Nous sommes faits de deux choses. Nous avons en nous un animal, mais à part l'animal, nous avons également une volonté. Si Yitzhak est abattu, qu'est-ce qu'on a pris ? Ça veut dire que Yitzhak n'est qu'une bête. Donc on n'a pas sacrifié Yitzhak, on a sacrifié l'animal qu'il y avait en lui. Donc c'est vraiment un assassinat. Tandis que si Yitzhak est disposé à être sacrifié, cette disposition, c'est déjà le sacrifice. Donc Yitzhak a été sacrifié. Mais qu'est-ce qui n'a pas été présenté ? L'animal qu'il y avait en lui. Bon, prendre un animal à sa place. Pour ça que la Torah dit, lorsqu'un homme d'entre vous voudra être sacrifié, qu'il amène un animal. Ça veut dire que le sacrifice, c'est véritablement le sacrifice de l'homme dans tout ce qu'il est. Y compris sa dimension, disons, de conscience, et sa partie animale qui est présenté par un, par un animal de sa propriété.
Ça veut dire qu'on ne peut jamais porter atteinte à la conscience ?
Non, au contraire. C'est en se donnant, en voulant être donné, que l'on est, qu'on s'est véritablement sacrifié. D'accord ? Et donc, le sacrifice d'Yitzhak est total. Donc vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'Abraham a fait cette mise en scène. Il y a Yitzhak en haut, il y a le bélier en dessous. Et donc, Vayale ou Leolat Achad Beno, il l'a présenté en sacrifice sous son fils. C'est même presque physique. D'accord ? C'est-à-dire qu'il est, il est. Yitzhak a une partie en lui bélier, une partie en lui qui est propre à lui-même, Yitzhak. D'accord ? C'est plus clair maintenant. Ça vous explique pourquoi est-ce qu'il a voulu sacrifier Yitzhak sur le bois, pour que par la suite soit possible cette mise en scène. Voilà. C'est plus clair maintenant ? Vaïkra Avraham, verset Yudalet. Nous passons donc au verset Yudalet. Vaïkra Avraham, Shema Makom Ahum, Hashem Yireh. Avraham nomma le lieu de cet endroit, Dieu verra. Asher Yéamer Ayom, comme on dit aujourd'hui, Be'ar Hashem Yireh, dans la montagne où Dieu sera vu. Ah bon, c'est quoi ça ? J'ai rien compris. Ça veut dire qu'Abraham a nommé cet endroit comme étant le lieu ultime du service. Donc c'est ça qui va fonder cet endroit comme étant le Beit HaMikdash plus tard. Vaïkra Malach Hashem El Abraham, et l'ange de Dieu appela Abraham, Shenit, une deuxième fois, Minashamaim, depuis le ciel. Vaïomer, pour lui dire, Bi Nishbati Neum Hashem, « Je jure en mon nom, parole de l'Éternel, qu'Yahan Asher Asita et Adavarazé, car parce que tu as fait cette chose-là, Velo Hasarta et Mincha et Yahidera, et que tu n'as pas privé de ton fils, ton unique. » J'ai pas compris. Je reprends. « Qu'Yahan Asher Asita et Adavarazé, parce que tu as fait cette chose-là. » Quelle chose ? Et alors dans ce cas-là, le verset se répète. Et tu n'as pas privé de ton fils.
C'est important que ce soit un bélier plutôt qu'une bête.
Ah oui, c'est important que ce soit un bélier. Pour Yitzhak, c'est important que ce soit un bélier. Si c'était Abraham, ça aurait été un taureau. Et si ça avait été Yaakov, ça aurait été un mouton. Parce que chacun représente autre chose. Le bélier, c'est l'animal domestique qui est capable de ruer, d'abattre avec ses cornes. D'accord ? Et donc, il représente la violence. La violence dans le domestique. C'est la Midat Hadin.
Le Moshé, c'est quoi son nom, l'animal qui veut...
Qui pour Moshé ?
Ouais.
Je sais pas. On a dit... Il y a vraiment Israël et Yaakov.
Et le taureau, pourquoi la recède, le taureau ?
Ah oui, bien sûr, parce que le taureau, c'est ce qui donne la vie. C'est l'animal puissant par excellence, c'est lui qui fait le labour. Il commence donc à. Toute l'œuvre agricole, ça commence par le taureau. Ce qui donne la vie. C'est chesed. D'ailleurs, c'est bien que le mot parle. Parle, ça veut dire ce qui donne des fruits. Donc, je reprends ici. L'ange dit parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas privé de ton fils. Donc, c'est quoi cette chose que tu as faite ? Quand est-ce que l'ange apparaît la deuxième fois à Abraham ? À quel moment ?
Il a témoigné de sa confiance.
À quel moment l'ange apparaît à Abraham une deuxième fois ?
Après qu'il ait appelé cet endroit Hachem.
Après qu'il ait donné un nom à cet endroit, Hachem Yireh. Ça veut dire qu'il accepte de connaître, que la connaissance de Dieu vienne à travers l'événement qui s'est passé dans cet endroit. C'est quoi l'événement qui s'est passé dans cet endroit ? Eh bien, l'unité des valeurs entre Abraham et Yitzhak. Et donc, Abraham a fait deux grandes choses. D'abord, il a donné le nom à ce lieu, le nom de l'unité des valeurs. Et en plus, il a un mérite d'avoir été disposé à donner son fils. Il y a ici donc deux éléments. Pourquoi c'est important ? Kivarecha varecha, car je te bénirai. Ve'arva arbe etzaracha, et je rendrai ta descendance abondante. Kichorve hashamayim, comme les étoiles du ciel. Vechachol asher al sefatayam, et comme le sable qui est au bord de la mer. Veyirash zaracha et charoivav, ta descendance s'emparera des portails de ses ennemis. Vidbarichu bezaracha kolgoye haaretz, et par ta descendance seront bénies toutes les nations de la terre. Aekev asher shamata bekoli, du fait que tu as entendu ma voix. Comment est-ce qu'on dit en hébreu du fait que? C'est incroyable, je viens de lire le verset en hébreu. Vidbarichu bezaracha kolgoye haaretz, par ta descendance seront bénies toutes les nations de la terre. Aekev asher shamata bekoli, du fait que tu as entendu ma voix. Comment est-ce qu'on dit du fait que en hébreu? Aekev, n'est-ce pas? Aekev, ça vous rappelle quelqu'un? Yaakov. C'est-à-dire que apparaît en filigrane l'identité de Yaakov. Étant donné qu'Abraham et Yitzhak se sont unifiés, donc ils peuvent donner naissance à Yaakov. Vous avez compris ? Puisque Yaakov, c'est lui qui est le dépositaire de l'identité des valeurs. Si Abraham est dépositaire de la Midat Hesed et Yitzhak de la Midat Hadin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse l'unité. C'est Yaakov.
Mais juste si on parle toujours de ses pères comme représentants des
Midot. Oui, bah, c'est ce qu'ils font.
Mais est-ce que ça veut dire que ça s'est vraiment passé avec, au niveau du pshat
Oui, bien sûr. Pourquoi ça ne serait pas passé?
D'accord.
Disons comme ça. Lorsque Abraham parlait avec Yitzhak, c'était le matin qu'il rencontrait l'après-midi. Parce qu'ils étaient totalement ces Midot, justement. Donc, à quelle heure de la journée Abraham pouvait rencontrer Yitzhak? À midi. C'est l'heure à laquelle ils avaient l'habitude de se rencontrer, s'ils se rencontraient. Vayashov Abraham el Ne'ara. Abraham revint chez ses serviteurs, ses accompagnateurs. Oui.
J'ai pas compris comment Yaakov et du fait que c'est lié.
Parce que le mot du fait que en hébreu se dit Aikev. Oui. Ce qui ressemble d'ailleurs comme deux gouttes d'eau au mot Yaakov. Ça veut dire que dans le discours de l'ange, il juge nécessaire d'employer un mot assez rare Le mot Ekev, un mot rare, évidemment. La preuve, c'est que vous ne le connaissez pas. C'est ça. Vous connaissez tous les mots courants en hébreu, mais il y a des mots rares que vous ne connaissez pas. D'accord. Et donc, s'il a choisi ce mot-là, c'est parce qu'il voulait lui parler d'Yaakov. Vayashov Avraham et Léara. Avraham revint à ses jeunes hommes, à ses accompagnateurs. Vayakumu, ils se levèrent. Alors, j'ai pas compris. Qui c'est qui aurait dû revenir?
Tout seul.
Et qui c'est qui aurait dû revenir?
Les serviteurs aussi, non?
Non, les serviteurs, ils étaient en bas.
Oui. Et donc, Avraham est revenu chez ses serviteurs. Oui, mais à mon avis, il aurait peut-être dû amener Yitzhak avec lui. Je sais pas. Hein? Yitzhak, il était vivant, non?
Bah oui.
Puisqu'il n'a pas été égorgé. Pourquoi est-ce que Yitzhak n'est pas revenu?
C'est-à-dire que lui, il redescend pas.
Il redescend pas. Il y a un midrash qui va très loin, qui dit que lorsqu'Abraham a voulu abattre Yitzhak, Yitzhak a perdu son âme. C'est-à-dire son âme l'a quitté, donc il est mort. Et il est resté comme ça sur l'autel pendant 2 ans et demi. Il a fait une petite visite dans le Gan Eden, dans le paradis. Et après, il est revenu. Vous y croyez, vous?
Ben, avec ce que vous avez expliqué tout à l'heure sur le fait que dans le sacrifice, on faisait le sacrifice réel sur l'animal, mais que malgré tout, c'était suite à un sacrifice
de volonté.
De volonté, alors ça reflète ce sacrifice.
Oui, exactement. Volonté. Ça ne veut pas dire que réellement, physiquement, il est resté là-bas coincé pendant 2 ans et demi sur l'autel.
Il était en déprime.
Pourquoi 2 ans et demi? Je ne sais pas. C'est peut-être en rapport avec un texte dans Yevamot, dans lequel on dit que Beth Shammai et Beth Hillel ont discuté pendant 2 ans et demi de savoir s'il était bon que l'homme soit créé ou pas. Là-bas aussi, il y a 2 ans et demi. Et les 2 ans et demi, d'après le Maharal, c'est parce qu'il y a dans l'homme, il y a 5 dimensions, et que c'était la moitié de l'homme. Enfin bref, je ne comprends plus grand-chose. Mais enfin, en tout cas, ce qu'il y a, c'est que Yitzhak ne redescend pas, ça qu'il y a écrit. C'est-à-dire, lui, après cette histoire, il devient un homme absolu. L'absolu ne connaît pas le relatif, il ne connaît pas notre monde. Ce qui vous explique pourquoi, à la fin de sa vie, on dit que ses yeux ne voyaient plus. Il ne voyait plus le réel, mais il voyait l'absolu. D'accord ? Maintenant, ce verset-là que je suis en train de lire, le verset Yutet, il clôt le récit de la Hakeda. S'il clôt le récit, c'est que donc il est la partie la plus élevée de la Hakeda. Le plus difficile pour Avraham, c'est de redescendre. C'est-à-dire, Vayashov Avraham et Nerav, Avraham revint à ces jeunes gens. Vayakumu Vayelchou Yahdav, ils se levèrent, ils allèrent ensemble, même expression employée pour Avraham et Yitzhak, El Beersheva, à Beersheva, Vayeshev Avraham et Beersheva, Avraham résida à Beersheva.
C'est le même parallèle qu'avec le Kohen Gadol à Kippour.
Exactement. C'est-à-dire que les ascensions spirituelles ne sont pas faites pour y rester. Elles sont faites pour redescendre. C'est-à-dire le Kohen Gadol à Kippour entre dans le Kodesh HaKodashim, mais le moment important, ce n'est pas quand il y entre, c'est le moment quand il en sort. C'est pour ça que dans les cantiques que nous récitons à Kippour, on dit combien il était beau à voir le Kohen Gadol lorsqu'il sortait du lieu saint. Et ce fut après ces choses-là. C'est-à-dire quoi, ce fut après ces choses-là? C'est-à-dire que la conséquence de ce qui s'est passé, c'est ce que nous allons dire maintenant. C'est quoi ce que nous allons maintenant? Ben, la préparation de Yitzhak au mariage.
Excusez-moi, vous avez dit...
Je vous excuse, tout à fait.
Le plus dur, c'est quoi? C'est l'ascension?
Non, c'est de descendre.
Le plus dur, c'est de redescendre?
Bien sûr.
Là, c'est le point le plus haut.
C'est le plus important, c'est de redescendre. La tentation mystique, c'est de rester en haut. Et le choix de la Torah, c'est Vachata Bachem, tu choisiras la vie. Vayir Haré Adevarim Aile, et ce fut après ces choses-là. Donc la conséquence, c'est la vie. Donc c'est pour ça qu'Yitzhak va se marier. Vayugad l'Abraham les morts. Et alors, on raconta à Abraham ainsi. Iné, voilà. Yaleda Milka Gami Banim Nahor Achicha. Milka, elle aussi, a enfanté des fils pour Nahor, ton frère. Milka, qui est la sœur de Sarah, c'est l'épouse de Nahor, qui est le frère d'Abraham. Et elle aussi, c'est-à-dire elle aussi, s'il y a aussi comme qui alors? Comme Sarah. Ça veut dire que Milka était elle aussi stérile et qu'elle a aussi enfanté dans la vieillesse. C'est-à-dire le miracle que la Torah nous a raconté à propos de Sarah, on découvre brusquement qu'il s'est passé également avec Milka, la femme de Nahor. Pourquoi c'est important?
Bah parce qu'Abraham, il a eu la bénédiction de Hachem sur...
Oui, mais d'accord, mais pourquoi est-ce que Nahor, lui, qui n'est pas Abraham, il a cette bénédiction en lui?
Parce qu'on a dit que la bénédiction, elle, quand elle a touché Sarah, elle a touché le monde
entier. Elle a touché le monde entier, c'est vrai. Alors dans ce cas-là, c'est pas seulement chez Nahor, c'est dans le monde entier. Mais là, il y a ici un accent sur Nahor. Nahor, c'est l'autre lignée de la famille de Terah. Vous vous rappelez qu'il y avait deux lignées possibles, celle d'Abraham et celle de Nahor.
Mais c'est pas ça.
C'est ce que nous avons dit. Donc je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà affirmé il y a quelques secondes. J'accepte que j'ai dit la vérité. Donc, ça veut dire que Milka et Sarah vont être la fécondité de deux écoles rivales. Ça veut dire qu'il y a un élément, si la Providence s'est permis de faire un miracle pour donner des enfants à Sarah, et qu'elle fait la même chose pour Milka, ça veut dire que la rivalité n'est pas si simple à régler. C'est-à-dire, Nahor représente quelque chose, on pourrait dire presque autant que ce qu'Abraham représente. Et là, on va voir ce que ça va donner. Et combien d'enfants est-ce qu'elle a eu? Eh bien, on va voir. Et Outz Bechoro, Outz son aîné. Vet Bouz Achiv, et Bouz son frère. Vet Kemuel Avi Aram, ainsi que Kemuel, père d'Aram. Vet Kesed, vet Hazo, vet Pildash, vet Idlaf, vet Betuel, ainsi que Kesed, Hazo, Pildash, Idlaf et Betuel. Pildash et Idlaf sont de très beaux noms. Recommandés pour ceux qui cherchent des noms pour leurs enfants. D'accord? Ouftuel, il y a là d'être Rivka, et quant à Betuel, il a enfanté Rivka. Shemona Ele, Yaleda Milka. Ces huit-là, Milka les a enfantés, les Nahor, Achi Abraham, pour Nahor, frère d'Abraham. Ufi Lakshô, et quant à sa concubine, Ushma Reuma, qui s'appelait Reuma. Vatelet Gamhi, elle a enfanté aussi, alors là vous avez des très beaux noms. Et Tevach Vet Gaham, Vet Tahash Vet Maacha. Tevach, Gaham, Tahash et Maacha. Ce sont des noms encore plus beaux. En tout cas, elle a combien de fils, elle?
Quatre.
Et combien elle en avait, Milka?
Huit.
Huit et quatre, ça fait 12. Et à part ça, on nous parle également de Rivka, qui est la petite fille, comme par hasard elle est mentionnée. Ça fait donc 12 fils et une fille. Intéressant ça. 12 fils et une fille.
Bah, comme Yaakov.
Comme Yaakov? Ah, j'avais pas pensé. Regardons un peu au chapitre Yud. Ça nous ramène un peu en arrière, mais c'est important quand même. Au chapitre Yud, c'est ça. Chapitre Yud. 10, n'est-ce pas? Au chapitre Yud. Chapitre Yud, verset Tetva. Uchnaan, quant à Kenaan, Yalad et Tsidon Bechoro Vetret, il a enfanté Tsidon, son aîné, ainsi que Het. Veta Yebusi, Veta Emori, Veta Girgashi, ainsi que le Jébuséen et l'Emoréen et le Girgaséen. Veta Rivi, Veta Arki, Veta Sini, ainsi que le Hévéen, le Arkéen et le Sinéen. Veta Arvadi, Veta Tsemari, Veta Hamati, ainsi que l'Arvadite, le Sémarite et le Hamatite. Veta Nafutsu, Mishurot, Akenani, et après se sont dispersées les familles des Cananéens. Ce qui fait combien de tribus en tout? 12. Vous avez donc 12 tribus chez les Cananéens. Les Cananéens sont la lignée écartée, n'est-ce pas? Rejetée. Regardons maintenant dans le chapitre Yud Aleph. Non, toujours dans le chapitre Yud. Chapitre Yud, au verset Kafé. Où l'Ever Yulach Nebanim, Ever eut deux fils. Shema Echad Peleg ki Beyamav Niflega Aretz. L'un s'appelait Peleg parce que de son temps la terre a été divisée. Veshem Achiv Yoktan, et le nom de son frère était Yoktan. Ve Yoktan Yala, et Yoktan a enfanté. Alors vous avez également une liste. Almodet, Vet Chalef, Vet Ratzamavet, Vet Yarach, Vet Adoram, Vet Uzal, Vet Dikla, Vet Oval, Vet Avimael, Vet Sheva, Vet Ophir, Vet Rabila, Vet Yovar, Kolé Ben Yoktan, tous ceux-ci sont les fils de Yoktan. Ça vous fait 13, dont une fille qui s'appelle Dikla, donc 12 garçons et une fille. Ah, très intéressant. À part ça, regardez à la fin de la paracha de Haye Sara, au chapitre café, au verset. Dans Haye Sara, chapitre café, au verset Yud Gimel, verset 13. Vele Shemot ben Ishmael, voici les fils d'Ishmael, Ishmotam Doldotam, selon leur nom et leurs engendrements, Bechor Ishmael et Vayot, l'aîné d'Ishmael, c'était Nevayot, Vekedar Vadbel, ou Mitsa, ou Mishma, Viduma, ou Massa, Hadad, Vetema, Yetur, Navija, Kedma. Elem ben Ishmael, voici les fils d'Ishmael, Vele Shemotam, leur nom, Bechatzrem, Tirotam, dans leur château, Shnem Asar Nissim, 12 princes. Et il y a également une fille d'Ishmael qui s'appelle Basmat, donc 12 garçons et une fille. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une lignée qui est écartée, elle est faite de 12 garçons et une fille. Et ben on va voir ça par la suite. Mais étant donné que nous avons depuis longtemps dépassé le temps qui nous est imparti, nous allons donc devoir remettre ça à la prochaine fois. Shalom.